Bonjour tout le monde et bienvenue à notre huitième épisode du balado Les Visages de la Peur. Je m'appelle Pierre-Luc Lafrance et comme d'habitude, je vais être votre animateur dans notre ruelle obscure de l'horreur. Épisode un peu spécial aujourd'hui. Je vous rappelle, au mois d'octobre, on avait fait un spécial Halloween. J'avais invité 9 écrivains qui s'intéressent à l'horreur à nous présenter leur coup de cœur de films, de bandes dessinées, de romans, de recueils de nouvelles ou même de séries télévisées. Finalement, j'avais eu beaucoup trop de matériel pour un seul épisode et je trouvais ça dommage de couper là-dedans. Donc, on va avoir notre deuxième épisode de spécial Halloween qui arrive à la fin novembre. Avec quelques jours de retard, habituellement, j'essaie de sortir le dernier jeudi du mois. Là, ça va être le dernier dimanche. Petit problème technique de mon côté. Cela dit, même si l'Halloween est passé, ben, c'est un bon moment pour avoir des suggestions parce que Noël arrive bientôt, donc que ce soit pour vous ou pour un amateur d'horreur, de fantastique autour de vous. Mais il y a peut-être des bonnes suggestions là-dedans. Ce mois-ci, j'ai l'occasion de m'entretenir avec François-Bernard Tremblay, avec Éric Gauthier, avec Pierre-Alexandre Bonin et avec Frédéric Durand. Donc, on va voir ce qu'il vous propose et je vous souhaite un excellent épisode. Merci d'être encore avec nous et de nous faire confiance dans cette aventure-là. Quand j'ai lancé le premier épisode des Visages de la Peur, je n'avais aucune idée vers où je m'en allais avec ça et je suis content de voir qu'à chaque épisode, vous êtes quand même nombreux à nous suivre. Notre invité, François-Bernard Tremblay, que j'ai connu à l'époque où il y avait un fanzine Clair-Obscur, on ne rajeunit personne, mais qui est aussi écrivain, entre autres, les romans là, de la série des enquêtes de Nick Jarvis, dont le dernier tome, Féminicide, est paru là, il y a quelques mois. Qui est aussi un podcast, qui est aussi dans le domaine des podcasts avec son balado, Les Quinquants. Bonjour.
Hey, salut, comment tu vas?
Ça va très bien. Hey, ça fait une éternité qu'on ne s'était pas vu, ne serait-ce que
Vraiment.
croisé.
Vraiment, vraiment. Je te remercie de l'invitation parce que, écoute, ça fait sérieusement, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas jasé.
Je pense que la dernière fois, là, c'est quand j'avais acheté le premier tome de la série Nick Jarvis au Salon du Livre de Québec. Fait
Wow.
que, compte l'année de parution, là, puis c'est pas mal là qu'on s'est vu.
C'est 2018, ouais.
Je vais te poser la même question qu'à mes autres invités. Quelles seraient tes suggestions d'histoires de peur, d'histoires d'horreur, que ce soit sous forme de livres, sous forme de films, même de bandes dessinées?
Ben écoute, moi je veux dire, sous forme de film, ben écoute, j'en ai trop. Sauf que ce que j'ai découvert dernièrement qui est assez magique, puis j'aime bien replonger là-dedans. Moi, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, Pierre-Luc, là. Donc, je te dirais que j'ai découvert, ben écoute, ça fait quand même une couple d'années, là, mais Tubi, la chaîne Tubi,
Oui.
où on peut se retaper plein les premiers films d'horreur, écoute, je pense qu'il y a même des films des années 20 ou des années 30, 1900. Et donc, écoute, c'est vraiment trippant de regarder ça, tous les films de série B là, des années 70, même 80, où les trucages sont ratés, on fait un arrêt sur image, comme dans le temps, écoute, c'est le fun, des premiers films de zombies, puis tout ce genre de trucs-là. Je trippe de réécouter tous ces vieux films-là. Écoute, les Toxic Avenger, Colore-moi rouge sang, tout ça. Tu sais, toutes les slashers un peu de cette époque-là qui sont bien ratés, là. Ben écoute, j'ai bien du fun à regarder ça sur Tubi. Sinon, ben évidemment, moi j'ai tous les autres trucs qui se passent évidemment sur Netflix et tout ça, là. Mais sérieusement, un petit coup de cœur là, pour les années, je te dirais, les films des années 60, 70, 80, là, qui sont un peu ratés, là. Tous ces genres de trucs-là qui sont des bootlegs aujourd'hui, toute la série Trauma et toutes ces choses-là. Ben ça.
Moi, dans ces années-là, là, c'est les Roger Corman que j'adore.
OK.
C'est des pièces de théâtre filmées carrément avec, tu sais, qui a toujours la fumée qui est faite avec de la glace sèche. T'as les costumes très shakespeariens. Surtout toute sa série d'adaptations, des fois très, très libres de l'œuvre d'Edgar Allan Poe.
Il avait même fait de quoi là, inspiré de Lovecraft, mais en le faisant passer pour une inspiration de Poe pour que les gens pensent que c'est dans la même vague.
Wow.
Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, mais les Toxic Avengers et tout ça, honnêtement, même quand j'étais jeune, j'ai jamais eu de plaisir à écouter ça.
Non, bon, écoute, chacun sa crowd, là, mais. Moi, j'aime bien ce qui est trash, là, ce qui est un peu gore. D'ailleurs,
Ouais.
on peut peut-être enchaîner là-dessus. Moi, en littérature, je te dirais que c'est un peu ça. Maintenant, comme j'écris beaucoup plus qu'avant, plus sérieusement qu'avant. D'ailleurs, j'avais parti Clair-Obscur, tu parlais de Clair-Obscur un peu tantôt. J'avais parti un peu ce fanzine-là, un peu pour aller explorer un peu l'écriture. Puis écoute, ça m'a réellement lancé dans l'écriture à temps, ben, pas à temps plein, parce que je suis quand même prof, là. Mais tu sais, je veux dire, plus sérieusement dans l'écriture. Puis j'ai moins de temps de lire. Puis aujourd'hui, quand je lis, justement, j'essaie de lire des affaires bien gore.
Okay.
Donc, moins de temps de lire les Stephen King puis tout ça. Parce qu'avant ça, je lisais au moins Stephen King par année. Mais là, écoute, je vais vraiment plus dans le gore. Donc, peut-être une couple de suggestions, là, parce qu'il y en a pour qui c'est jamais assez, là. Paru
Oh.
au Diable Vauvert, Métaphysique de la viande. On est vraiment dans le gore. En fait, c'est la continuité un peu de cette populaire collection qu'il y avait au Fleuve Noir, qui s'appelait la série Gore, évidemment, là, du Fleuve Noir. Là, ici, j'ai un Georges-Jean Arnault, là, qui est bien connu, auteur de
Oui,
science-fiction
Bruy
fantastique et
Bair.
de policier, un Corcellien qui est en fait K-A-A, là, qui est un auteur de polar aussi du Fleuve Noir de l'époque, là. Mais donc, écoute, c'est un peu le je dirais un peu. Ah, c'est ça, l'héritage un peu de cette série-là, Métaphysique de la viande, qui est assez dégueu comme bouquin quand même. Je dis pas que c'est bon. Je dis que ceux qui en veulent plus puis qui en ont jamais assez, là, pour qui c'est Patrick Sénécal, c'est de la petite bière, là, ben allez vous écœurer un peu avec ça, là. Je vous jure qu'après deux, trois chapitres, tu passes deux, trois jours plus
Quoi?
relax, là. J'haïs pas ça. Il y a même eu des études faites sur les collections Gore puis tout ça. Moi, j'ai
Oui.
bien aimé ça. Frédéric Durand, notre ami Frédéric Durand, a écrit d'ailleurs là-dedans.
Tout à fait. Gore, autopsie d'une collection.
Ouais, c'est bien le fun. Je veux
Je
pas
me
le.
souviens, ça, je l'ai dévoré comme un roman. Honnêtement, j'en ai lu plusieurs des livres de la collection Gore et honnêtement, c'est pas tout réussi. Il y en a du
Non.
très. Il y en a qui, honnêtement, c'était très bon. Il y en a qui étaient très mauvais. Il y en a qui étaient entre les deux. Honnêtement, les pires, c'était le entre les deux, qui était comme oubliable. T'sais, si c'était très, très mauvais, tu l'oubliais pas. Si c'était très bon, tu l'oubliais pas. Mais le entre deux, même ceux-là, la description qu'ils en font dans l'autopsie d'une collection devenait intéressante.
Oui, mais effectivement, écoute, c'est très, très inégal parce que je pense qu'ils publiaient à peu près tout ce qui leur était envoyé à l'époque, là. C'est souvent des commandes qu'ils faisaient, comme je sais que ceux de Georges-Jean Arnault, c'était des commandes. On voulait que Georges-Jean Arnault écrive du gore. Il en a écrit, il est pas allé exactement vers les endroits où eux autres voulaient qu'il y ait un. Puis après ça, il a dit, bon, c'est fini, là, tu sais, j'en ferai plus. Écoute, couple d'autres suggestions. Et là, je vais peut-être tomber plus dans la BD, si tu veux.
Okay.
Écoute, moi, je suis pas. Je lisais beaucoup de BD quand j'étais très, très jeune, donc BD, donc plus ado, là. Aujourd'hui, j'en lis moins, mais quand même, j'ai mes petits classiques, là. Écoute, juste peut-être parce qu'on était dans la littérature. Maxime Chatham, L'âme du mal, la trilogie du mal est
Oui.
en BD. Okay? Donc, c'est chez Michel Lafon. Aussi, et Michel Lafon et Jungle Thriller. Donc, la trilogie du mal, donc Maxime Chatham, très, très intéressant. Les images sont assez quand même assez réalistes, là. Je peux peut-être montrer un petit peu une coupe de planche là, aux éditeurs, là. Mais donc voilà, donc ça s'appelle Le Bourreau de Portland, donc la trilogie du mal. C'est l'adaptation de la trilogie, en fait, de Chatham, qui a été si populaire. On parlait tantôt de séries télé. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Walking Dead. Donc,
Oui.
ça existe aussi, les zombies. Donc, et ça, c'est chez Delcourt, donc, la série Walking Dead en bande dessinée. Donc, c'est en noir et blanc. Donc, belle fun de relire ça ou de revoir Walking Dead, mais d'une autre façon. Moi, j'avais pas vraiment vu les jeux vidéo, ces choses-là. Donc, voilà. Donc, c'est un peu. Avais-tu écouté
Oui.
Walking Dead, toi?
J'ai écouté, mais moi j'avais lu les bandes dessinées avant.
OK.
Puis honnêtement, je trouvais que
Les mêmes que moi ou.
la. Oui, ben je l'avais lu en anglais, puis je l'ai lu en français aussi, la traduction chez Delcourt. Je trouvais que la série n'était pas à la hauteur de la bande dessinée. T'sais, c'était bien, Mais la bande dessinée atteignait... C'est juste qu'à un moment donné, ils ont comme atteint un climax et j'ai trouvé que ce qui arrivait ensuite était moins intéressant, était moins... T'sais, ils m'avaient comme emmené au bout de ce qu'ils pouvaient. J'avais vécu ça à un moment donné pour une série télé, je sais pas si tu connais ça, Banshee. C'est pas de l'horreur, mais c'est une série extrême.
Non, ça me dit rien.
En gros, là, histoire courte, un voleur de haut vol qui sort de prison, il se fait courir après par la mafia parce qu'il les a volés. Puisqu'on apprend qu'il les a pas juste violés, il est volé, mais il est parti avec la fille du chef de la mafia. Lui part, puis il faut pas qu'il se fasse trouver, il se retrouve dans une petite ville, et il arrive en même temps que le nouveau shérif de la place qui se fait tuer. Et il prend son identité, devient le shérif d'une petite ville, puis une petite ville explosive où il y a des motards, une espèce de communauté religieuse, mais qu'en dessous, il y a des affaires pas claires. Il y a une réserve indienne à côté où il y a des casinos en martiaux mix et tout. Lui, il se retrouve là-dedans, puis c'est un gars qui est un junkie à l'adrénaline. Puis à un moment donné, à la série, il y a un épisode qui se passe en flashback où on voit ce qui lui est arrivé en prison. Puis il était tellement monté loin qu'après ça, qu'elle sont revenue sur de quoi de plus? Ben, je dis non, là, regarde, tu m'as fait faire un gros tour de montagne russe, puis là, tu veux que je fasse des auto-tamponneuses. Non.
Ouais, et des fois, ça marche pas, effectivement, là, les montages en flashback, c'est pas tout le temps pertinent comme ça. Moi, c'est le contraire de toi. Moi, j'avais pas le temps. Ben, comme je te dis, je suis pas très, très, très BD. Mais bon, oui, quand même, à une certaine époque, mais moins aujourd'hui. Mm-hmm. Mais donc, moi, j'avais écouté la série Walking Dead. En fait, je pense qu'il me manque la dernière saison que j'ai pas écouté encore. Dernière saison parue, là, je pense, c'est mm-hmm. la 11. Ou la 12, je me souviens pas où est-ce qu'ils sont rendus ou où est-ce que j'ai arrêté. Puis moi, c'est en fait, comme j'entendais un peu la même chose que toi, que la série télé n'était pas à hauteur des BD, ben c'est ce qui m'a amené à la BD après. Là. Donc, voilà. Voilà okay. Pour ça. Sinon, écoute, je finirai en parlant de quelques classiques dont tu as probablement déjà entendu parler. Moi, je suis quelqu'un, bon, évidemment, de tueur en série, polar, thriller, tout ça. Donc, je vais te parler d'un auteur qui s'appelle Alan Moore, que tu connais peut-être, bien qui sûr. Est l'auteur de V pour Vendetta, qui avait fait évidemment un gros tapage, cette série-là, en BD. Donc, évidemment, que je recommande. Et c'est très, très historique. Même chose pour ce qui m'a encore plus intéressé de lui, c'est From Hell, mm-hmm. Qui est évidemment, donc, la lettre, en fait, le titre de la lettre que Jack l'Éventreur avait... la lettre avérée, qui semble-t-il, de Jack l'Éventreur. Donc ça, c'est très historique. C'est presque du crayonnage. On voit que c'est pas léché, là. C'est vraiment du crayonnage, on dirait, un peu. C'est bien fait, j'adore ça. Écoute, et historiquement parlant, c'est une belle visite là, de Londres des années 1880. Donc, Alan Moore, un de mes scénaristes de BD préférés. Donc, évidemment, je conseille tout ça, ces choses-là. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire ça un peu, toi, V pour Vendetta ou From Hell, t'as pu explorer tout à
fait.
Ça un peu.
Et si ça t'intéresse, là, Alan Moore a fait aussi une coupe de bandes dessinées dans l'univers Lovecraftien. Ouais. Entre autres, une bande dessinée qui s'appelle Neonomicon, puis il a fait une série qui s'appelle Providence en trois tombes. Non, c'est un des auteurs de BD que je suis particulièrement.
Voilà, mon cher, écoute, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais te parler aujourd'hui.
Hey, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Je suis content d'avoir eu l'occasion de te revoir 4 ans plus tard.
Ouais, ben écoute, j'imagine que nos routes vont se recroiser à un moment donné, éventuellement dans un salon, dans un Montréal.
On va s'arranger pour.
Par le monde des communications comme aujourd'hui.
Hey, passe une bonne soirée.
Bye, mon ami, bye.
Et pour notre spécial Halloween des visages de la peur, on a avec nous Pierre-Alexandre Bonin, qui est un grand lecteur de romans d'horreur, un spécialiste de Stephen King, qui est aussi anthologiste au 6 brumes avec Horrificorama. et qui est bien sûr un écrivain qui a écrit beaucoup d'horaires, mais particulièrement pour la jeunesse. Mmh. C'est entre autres un des auteurs associés à la collection, à la série Frisson, 100% québécois.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais te poser la même question que je pose à mes autres invités. Quelles seraient tes suggestions de romans plus d'horreur ou d'œuvres d'horreur, c'est pas obligé d'être des livres, pour nos auditeurs?
Ben, moi, je vais aller avec de l'horreur. Comme tu l'as dit, j'écris moi-même de l'horreur pour la jeunesse. Donc, j'ai envie de suggérer des collègues auteurs qui font de l'horreur jeunesse. Parce que, honnêtement, c'est pas parce qu'on fait du jeunesse qu'on n'est pas épeurant. Les titres que je vais nommer m'ont personnellement marqué et honnêtement, je suis un grand consommateur de littérature d'horreur et ça en prend quand même beaucoup pour m'atteindre, pour me troubler et je me dis si du jeunesse est capable de le faire, les enfants et les ados qui ont envie de vivre des sensations fortes vont être clairement servis. Donc, je commence en force avec la série Anna Caritas de Patrick Isabelle aux éditions Les Malins. Honnêtement, je pense que le génie de cette série tient au fait que Patrick Isabelle connaît sur le bout de ses doigts les codes des différents genres ou sous-genres de l'horreur et il les exploite dans chacun des romans de façon indépendante, ce qui donne des histoires variées, donc qui ne se répètent pas. Et honnêtement, il a le don de mettre une ambiance terrifiante. Juste le début du tome 1 qui... avec une partie de Ouija, je ne veux pas en dire plus, mais honnêtement, je pense que j'avais envie de dormir avec une veilleuse, au moins une veilleuse ou les lumières complètement allumées pour dormir, parce que c'était vraiment... ça rentre dedans, honnêtement.
Je confirme que c'est de l'horreur qui peut très bien se lire pour un adulte aussi. Donc, donnez-le à votre fils, votre cousin, votre neveu, peu importe, puis lisez-le après. Okay. Je viens de me procurer le dernier, je ne l'ai pas lu encore.
Écoute, je suis un peu en retard dans la série, moi aussi, mais les romans que j'ai lus, il n'y en a pas un qui m'a déçu. Patrick réussit à se surpasser à chaque fois. Je suis un peu jaloux de son talent et de ce qu'il fait, mais en même temps, je me dis, ben, tant mieux, parce que ça me donne à lire d'excellents romans d'horreur aussi. Donc, je ne me plains pas trop non plus. Deuxième suggestion, on va y aller du côté de l'horreur féminine, parce que ça aussi, on a tendance un peu à imaginer que c'est autant les gars qui écrivent de l'horreur, alors que c'est pas vrai. Il y a des filles qui écrivent de l'excellente horreur, et j'ai nommé Véronique Drouin avec Détox, qui est son dernier roman d'horreur, vraiment purement horreur. Elle en a fait un chez Bayard Canada, qui a peur du loup, je crois que j'ai pas lu encore, qui semble être horreur psychologique un peu, mais Détox, on est vraiment dans l'horreur. À la fois le body horror, un petit peu, je te dirais, à la fois... écoute, j'essaie de voir des références, mais c'est beaucoup... On dirait que ça me fait penser à beaucoup de films aussi, qui est un roman très, très troublant, parce que j'ai eu la chance d'avoir Véronique en entrevue pour mon travail chez Communication Jeunesse, et elle m'expliquait que elle, une de ses grandes peurs, c'est la perte de contrôle, que ce soit la perte de contrôle de soi ou la perte de contrôle de son environnement. Et Détox, c'est exactement ce que c'est. C'est le personnage principal qui est pratiquement une final girl, en fait, parce que tout le monde meurt autour d'elle de façon assez horrible et atroce. Et elle perd complètement le contrôle sur les événements. Elle ne peut que réagir. Et j'ai trouvé ça excessivement troublant parce que souvent, dans le roman d'horreur ou dans le film d'horreur, on a l'impression que les personnages prennent des décisions connes juste pour... faire avancer le film, puis pour qu'il puisse se faire tuer dans le détour. Mais Véronique réussit à subvertir ce trope-là pour faire en sorte que le personnage n'a pas le choix de réagir. On se dit, ben, quel choix j'aurais pu faire? Aucun meilleur choix qu'elle. J'aurais fait la même affaire, puis j'aurais pas eu le choix moi non plus. Donc, on est collé sur le personnage jusqu'à la fin. Et la finale, oh mon Dieu, j'ai fini le roman, puis j'ai sacré un petit peu.
Okay.
Vraiment. Et ça, c'est honnêtement, on est dans le 14 ans et plus, très bon lecteur. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est vraiment du roman pour ados, voire jeune adulte, mais c'est une pépite à découvrir absolument. Je n'ai pas encore lu Rivière au cerf-blanc de Véronique, mais on m'en a dit de grand bien aussi, donc c'est sûr que je veux lire. J'avais lu Guillotine à l'époque aussi, quand elle avait publié, que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais Détox, là, particulièrement marquant, honnêtement.
OK, tu le vends bien. Comme je dis, moi, j'avais lu les deux autres titres que tu as nommés, mais je n'ai pas lu celui-là. Fait que,
okay, ça vaut la peine, honnêtement. Là. Okay. C'est complètement autre chose. On s'en va vraiment ailleurs. On va rester dans l'horreur au féminin avec France Gosselin, cette fois, pour Derrière le mur, aux éditions Zélé, dans la collection Zone Frousse Plus.
Mm-hmm.
Je suis un grand fan de la collection Zone Frousse. Je veux dire, quand j'étais libraire jeunesse sur la librairie Monet, j'avais écrit un article sur la collection parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Puis j'avais passé en entrevue des auteurs, les directrices, les filles derrière les ailés aussi. Et là arrive la collection Zone Frousse Plus, qui est pour les ados, vraiment, qui est plus pour les ados. Et France, qui nous sort un roman où le malaise physique ne nous lâche pas une seconde. On est vraiment dans de l'horreur un peu des années 80-90, je te dirais. Ça m'a fait penser un peu à James Herbert, justement. Je pense que c'était lui, c'est James Herbert qui a fait la série sur la trilogie, oui, sur les rois, justement. Je lisais ça, puis j'étais, oh mon Dieu, mais c'est comme James Herbert avec les rats et tout. Et justement, c'est une histoire de rats. Donc, avis à ceux qui n'aiment pas ce sympathique rongeur. Je ne pensais pas qu'un psycho-roman d'horreur pouvait puncher à ce point-là. Donc, moi, je m'étais dit, oh, ça va être cute, ça va être le fun, une belle petite lecture sympathique. Et que je ne m'attendais pas à ça. Puis, genre, quand j'ai revu France après, elle m'avait dédicacé le roman. Puis, quand je l'ai revu après, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Puis, elle était crampée. Elle a dit, bon, parfait, j'ai réussi mon coup. Elle était très contente. Avec raison, honnêtement, parce que c'est vraiment un très, très bon roman pour ados, celui-là. Très, très court aussi. Donc, les moins bons lecteurs qui veulent les sensations fortes vont être absolument servis.
OK, oui. Je me souviens de l'avoir lu à sa sortie. En effet, j'en garde un très bon souvenir.
C'est ça. Habituellement, quand un roman va nous marquer, on garde des souvenirs assez impérissables de ça. On continue avec deux romans de la collection noire chez La Courte Échelle. Qui a vraiment permis, à mon avis, de renouveler le genre de l'horreur jeunesse au Québec et de renouveler l'intérêt aussi. Patrick Isabelle, avec Anna Caritas, a posé les premières pierres sanglantes de ce nouvel édifice, mais la collection noire est venue à son tour s'installer solidement. Donc, le premier, c'est L'Acadélard de Feu et regretté François Blais, c'est ça?
Oui.
OK, mon Dieu, je m'en serais vraiment voulu de le débaptiser. Donc, François Blais, L'Acadélard, une histoire de fantôme tellement sur la coche, mais vraiment, on se dit, tu sais, tout a été écrit sur les histoires de fantômes, la hantise et tout, tout a été dit, il n'y a plus moyen de renouveler le genre et tout. Et là, François Blais arrive avec L'Acadélard qui a tout raflé quand il est sorti. Fun fact, j'avais un roman qui est sorti à l'époque et j'étais finaliste pour plusieurs prix en même temps que François Blais. Il a tout raflé et j'étais content à chaque fois qu'il gagnait. Il méritait plus que moi de gagner. Son roman était meilleur que le mien. Donc, une solide histoire de fantôme avec une touche de roman policier, de un peu de savoir qui a commis les crimes et tout. Donc, on n'est pas tant dans l'horreur comme les autres titres que j'ai nommés jusqu'à maintenant, mais il y a vraiment un malaise qui est là tout le long, puis c'est une bonne histoire de fantôme. Genre de truc qu'on pourrait se raconter autour du feu l'été, autour d'un feu de camp, là, en mangeant des guimauves, puis en gardant la flashlight pas loin, parce que s'il y a un bruit qui vit dans le bois, c'est clair qu'on va avoir peur après s'être raconté cette histoire-là. Donc, vraiment, à découvrir.
Je suis d'accord avec toi. En partant, c'est un auteur à découvrir, si vous ne l'avez pas encore lu. Mais je me demande si c'est pas ce qu'il a écrit que j'ai le plus apprécié, ça a été son roman jeunesse. Parce que souvent, dans ce qu'il a fait pour adultes, c'est relativement court. Souvent, c'était plus proche de la novella que du roman. Dans L'Acadélard, c'est laissé un peu plus de place pour développer. Puis oui, il a créé quelque chose d'assez troublant. Moi, si j'avais un roman jeunesse d'horreur au Québec à nommer, ça a été celui-là.
Oui, puis tu vois, là, j'ai commencé à entendre des critiques pour son roman posthume, Le garçon pied à l'envers, qui est sorti de mémoire, c'est chez Leméac. Et là aussi, semble-t-il que c'est vraiment un de ses grands romans aussi. Okay. Donc, j'ai très, très hâte de le lire aussi. On est dans le fantastique, un peu horrifique encore aussi. Une histoire très sombre aussi. Puis les critiques que j'en ai entendues ou lues sont vraiment dithyrambiques aussi. Donc, à découvrir là aussi. Et je termine avec un autre François. C'est pour ça que j'avais un doute tantôt, en fait, parce que je me disais, j'ai-tu vraiment deux François? Mais oui, François Gravel avec Les vieux livres, les vieux livres sont dangereux. Et vraiment, celui-là, rarement, voire jamais, me suis-je autant demandé dans un roman jeunesse, mais est-ce que le personnage principal va mourir avant la fin du roman? Donc, je ne veux pas voler le punch, je ne dis pas s'il survit ou pas, mais honnêtement, j'étais comme, ben voyons, c'est du jeunesse. Comment ça se fait qu'il y a des chances que le personnage meure? Voyons, ça se peut pas. On ne fait pas ça en jeunesse. Tous les auteurs que j'ai interviewés quand je faisais des articles sur l'horreur jeunesse et tout, tout le monde me disait, il ne faut pas que ton personnage meure et tout. Puis là, François Gravel, lui, est comme, voyons, ça se peut qu'il meure. Attachez-vous pas trop. Et vraiment, là aussi, c'est une ambiance excessivement glauque. C'est vraiment troublant comme ambiance et tout. Ça se passe dans le sous-sol d'une école. Un garçon qui est en retenue avec un étrange bibliothécaire un peu qui a comme des motivations un peu louches de le faire travailler et tout. Donc ça, vraiment, j'ai été agréablement surpris et légèrement horrifié de voir où est-ce qu'on m'amenait en jeunesse. J'étais, mon Dieu, ça aurait presque pu être un roman pour adultes. Bon, évidemment, ça reste du jeunesse quand même. Mais solide performance de la part de François Gravel, honnêtement, qu'on n'attendait pas dans le roman d'horreur nécessairement, parce qu'on le connaît plus pour des romans, c'est sa série des Clonks et tout. Donc, en jeunesse, il fait des trucs plus lumineux, plus sympathiques un peu. Puis là, il nous envoie la balle courbe avec ça, que t'es comme, OK, d'accord. Donc, roman de la collection noire chez La Courte Échelle à découvrir absolument.
Oh, wow! Hey, ça me donne quasiment envie. Ça me donne envie éventuellement de faire un numéro spécial sur la littérature horrifique pour la jeunesse. Parce que juste t'écoutais parler, puis je pensais à des romans de Brian Eagernor, qui est le nom de plume d'Alain Bergeron, qui a fait des choses vraiment pas pires en horreur jeunesse. Mm-hmm. Un gars comme Claude Bolduc.
Jonathan Reynolds aussi.
Jonathan Reynolds, Marie-Lou Addison. Oui, fait que Marie-Lou, oui, on a quand même plusieurs auteurs qui font des choses intéressantes et qui peuvent être intéressantes pour adultes.
Oui, mais Marie-Lou, par contre, suture, si je me trompe pas. Oui, chez De Mortagne, là.
Oui.
Oh my God! God, que je me dis qu'on veut, on se porte une pétition, un change.org, on veut que Marie-Lou fasse de l'horreur adulte davantage. On peut-tu faire ça avec ton podcast, partir une pétition, mettre de la pression sur Marie-Lou?
On va regarder ça. Je ne suis pas sûr qu'on a ce pouvoir-là, mais on peut partir à quelque chose.
Marie-Lou, si tu nous écoutes, s'il te plaît, on en veut plus.
Hey, merci beaucoup. Honnêtement, quand je ferai un spécial jeunesse, je penserai à t'inviter.
Yes, ben écoute, ça va me faire plaisir. Puis il y a tellement de choses à dire aussi. Puis là, je suis resté dans le québécois, mais je veux dire, il y a du canadien, il y a de l'étranger aussi. Il y a tellement de choses à dire, mais là, je vais me retenir quand même. Je suis pas le Jean-Marc Parent du podcast. On va respecter quand même ton chrono.
Hey, bonne fin de soirée.
Merci à toi aussi.
Notre invité, Frédéric Durand, est un auteur qui a arpenté les domaines du fantastique, de l'horreur depuis plusieurs années. On peut le lire chez différents éditeurs. Il a même touché à la poésie aussi. Et il a entre autres publié, j'ai toujours de la misère avec les titres, sur les pas d'une poupée suspendue.
C'est presque ça, dans les
pas. Dans les pas. Ouais. Bon, je pars des fois sur le sûr. Donc, hey, salut Frédéric.
Salut Pierre-Luc.
Quelles seraient tes suggestions pour des amateurs de fantastique d'horreur dans cette période de l'Halloween?
C'est difficile, hein? Ça a été difficile en fait, non pas de trouver des suggestions, mais de circonscrire mes idées et de les abréger. Je vais commencer avec une nouveauté, hein? C'est un peu évident là, pour les gens qui me connaissent, mais donc il s'agit du roman graphique ou de la bande dessinée La Cité Oblique, scénarisée par ma compagne Ariane Gélina et mise en image par Christian Quenel, qui avait entre autres fait la bande dessinée sur le lac mégantique, dont on a beaucoup entendu parler. C'est un livre qui, de toute façon, a fait parler de lui là, depuis sa sortie. Et c'est vrai que on s'étonne des fois, tant ça paraît évident que personne n'y ait pensé avant. Il est connu là, que Lovecraft était venu ici au Québec, mais que le lien entre Lovecraft et le Québec est servi à nourrir une fiction. C'est étonnant que personne n'y ait pensé. Donc, Christian Quesnel et Ariane Gélinas y ont pensé et l'ont fait. Et les férus d'histoire y trouveront leur compte aussi, puisque c'est toute l'histoire de la Nouvelle-France et de la colonie là, qui est développée à travers ce roman graphique-là, mais transfiguré par l'imaginaire de Lovecraft. On sait que ce que Lovecraft avait écrit ici sur sa visite au Québec était plus des textes, des notes personnelles, donc rien en réalité qui représentait tant que ça son imaginaire. Alors, cette occasion nous a été donnée là, par ce roman graphique qui est très beau d'ailleurs. Hein. Il existe une version collector et une version régulière, donc un très beau plaisir pour les yeux et pour l'esprit aussi, puisqu'on retrouve tout le talent de narratrice d'Ariane et son écriture là, très travaillée. Donc, La Cité oblique chez Alto.
Je confirme et je seconde la suggestion. C'est un livre qui se lit autant avec les yeux qu'avec l'esprit.
On continue dans les bandes dessinées et les romans graphiques. Cette fois-ci, on est plus dans le comic strip avec la série de Lise Mir Nemi. C'est une série qui est paru chez Milady, là, l'une des maisons d'édition qui est rattachée à Bragelonne. Et c'est une autrice, c'est ça que je suis en train de vérifier, est-ce qu'elle vient de Norvège? Je pense que oui, je ne trouve pas l'information. Mais bref, ce sont des comic strips, donc le principe, hein, c'est trois petites cases, là, comme on le voit souvent dans les journaux du samedi, où on suit une jeune gothique dans son quotidien, mais toujours avec beaucoup d'humour. Je pense que c'est un petit peu autobiographique à travers ça. Et comme on le voit avec la page couverture, donc l'imaginaire et le fantastique font partie intégrante de la vie du personnage principal. On a quelquefois quelques jolies cases comme ça, plus ambiantes. Donc il y a au moins trois volumes qui sont parus. C'est drôle et c'est là pour nous rappeler aussi que au-delà de la réputation peut-être un peu lugubre et mal famée parfois là, que le genre horrifique se traîne avec lui, beaucoup de lectrices et de lecteurs du genre sont de bons vivants qui aiment rire et s'amuser. Donc ça s'appelle Nemi. C'est chez Milady.
Je ne connaissais pas du tout, donc merci de me le faire découvrir.
Ben oui, ça sert à ça, ce genre d'occasion. Ça fait toujours plaisir, effectivement, que ce soit pour moi aussi. Je vois que tu as ta tasse thématique en plus.
Eh oui, j'ai ma tasse de la Maison des Viscères.
Justement, l'éditeur de la Maison des Viscères a participé à Horrificorama. C'est un peu une référence maintenant dans le genre, puisqu'il s'agit d'un collectif de recueils de nouvelles, dont la particularité est que chacune des nouvelles appartient et illustre à un sous-genre spécifique de l'horreur. Donc, on trouve là-dedans du slasher, de l'horreur psychologique, du récit surnaturel, de l'horreur plus frontale. On trouve un petit peu de tout. Et donc, beaucoup d'auteurs qui orbitent là, dans le milieu figure au sommaire de ce recueil-là. Est-ce que tu étais là-dedans? Oui, c'est ça. Je me semble que tu étais là-dedans aussi. Là. Je l'ai lu, ça fait un petit bout de temps. Et j'allais dire, il ne manque que Claude Bolduc. Et là, je me suis dit, mais est-ce que Pierre-Luc est là? Mais oui, il est là, effectivement. Donc, je peux dire qu'il ne manque que Claude Bolduc. Il n'était peut-être pas disponible à ce moment-là, avec une belle préface de Patrick Sonnecal qui rappelle aussi que pour lui, une société qui publie du fantastique ou de l'horreur est en bonne santé. Mais ça, il faut lire sa préface pour comprendre pourquoi. Horrificorama aussi brume, qu'on aime bien d'ailleurs.
Oui, en effet. Puis ce qui est le fun pour quelqu'un qui veut découvrir l'horreur québécois, c'est que ça permet de découvrir plusieurs voies en même temps, dans plusieurs genres. Donc, c'est quasiment des pastilles de goût de la SAC. Donc, est-ce que tu aimes ton horreur plus bizarro ou plus slasher? Ben, tu as ta réponse en lisant ce livre-là.
Oui, absolument. Et ce sont tous des inédits. Hein. Donc, c'est pas une anthologie. Là. Ce sont vraiment des textes qui ont été écrits spécifiquement. Alors, on les trouve pas ailleurs. Alors, ça, une raison de plus pour encourager cet éditeur qui, rappelons-le, est 100% indépendant. Donc, ils n'ont pas de subvention. Ce qui veut pas dire que c'est mal d'avoir des subventions, mais ça veut dire que chaque soutien aussi brume est encore plus significatif. Ils ont d'ailleurs une campagne de sociofinancement, donc à suivre, il y a des livres qui s'en viennent chez les Cibrumes. On parlait un peu de slasher, justement. Alors, il y a ce monumental livre paru chez Glénat, En slasher, attention, ça va couper. Donc, on parle d'un livre de 350 pages. J'ai trouvé intéressant, plutôt que de faire des recommandations cinéma, de vous recommander un lieu, un endroit où vous pourriez en trouver encore plus. Donc, slasher, ce genre de film qui a vu le jour à la fin des années 70, où on suit les exactions d'un tueur généralement masqué. Il y a une petite donnée mystérieuse aussi à travers ça. Ça brasse beaucoup de genres, hein, le whodunit à la Agatha Christie, le giallo italien, l'horreur plus frontale aussi. Et c'est un genre qui a connu un certain déclin dans les années 90 avant d'être totalement relancé. Et aujourd'hui, on en voit encore beaucoup. Donc, le livre est mis à jour, là. C'est sorti très récemment, là. Je sais pas si je me rappelle bien, ça fait quelques mois seulement. Slasher, attention, ça va couper, donc chez Glénat.
En plus, il a l'air particulièrement beau, donc ça va être Ça, c'est le genre de livre, souvent, moi, je garde sur ma table de nuit puis que je feuillette un peu le soir avant de me coucher.
Ben, clairement, et la façon dont il est présenté favorise ça. Donc, tu as des entrées sur différents films, mais tu as des encarts aussi avec une psychanalyste qui est interviewée, certains réalisateurs, ils vont y aller par thématique aussi, donc les slashers parodiques. Alors, c'est assez bien fait et ça se prête très bien à un furetage, effectivement. Et puisqu'on est dans les parutions sur le cinéma, deux fanzines, hein, c'est toujours aussi une belle initiative à mentionner, puisque les fanzines sont également. Donc 100% indépendant. On a Vidéotopsie ici, un fanzine français qui fait son numéro sur Amityville. Donc je m'étais habillé en Amityville ce soir pour célébrer son numéro. Donc là, des très beaux fanzines qui existent. Et sinon, Médusa, qui est un autre fanzine européen. Ici, on a un numéro sur la coulrophobie, c'est-à-dire sur la peur des clowns. Et c'est vraiment un fanzine qui est très luxueux, hein, et tout
Wow.
excellent travail. Alors j'ai demandé à Didier, parce que c'est lui qui a écrit le dossier au complet, mais il y a un nombre de films incroyables avec des clowns inquiétants, surnaturels ou tueurs. Donc, il s'est vraiment infligé une diète de films de clowns pendant plusieurs mois. Il m'a dit qu'à la fin, c'était un petit peu difficile et je pense qu'on peut quand même assez bien le comprendre.
Assurément.
Donc, Médusa Fanzine. On est toujours dans les ouvrages de référence avec un étrange livre qui m'a obsédé au cours des derniers mois. Il s'agit de Necromancer of Rock. C'est la biographie d'un groupe italien culte qui s'appelle Death SS, un groupe qui a été fondé dans les années 70 et qui, croyez-le ou non, existe encore. Et on voit ici le look des membres du groupe. Donc, ils incarnaient tous un personnage d'épouvante. Au milieu, on a Stefano Silvestri, donc qui a été l'un des fondateurs de ce groupe-là. Ils préfiguraient ce qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui, mais eux étaient vraiment des avant-gardistes. Ils ont presque inventé le black metal, bien que leur musique n'en soit pas totalement. Et ce qui est très, très particulier, c'est donc qu'ils ont grandi dans une petite ville d'Italie très, très anodine où tout était ennuyeux. Et lui s'est d'abord trouvé un intérêt pour le cinéma d'horreur et pour les bandes dessinées, avant de décider en quelque sorte de faire de sa vie un film d'horreur. Alors là, il s'est lancé dans l'occultisme, mais vraiment très, très sérieusement, dans des séances qu'il faisait dans des cimetières, aller essayer de rencontrer là, différents occultistes en Italie. Et son projet était vraiment de faire un groupe occulte. Et dans cet ouvrage qui couvre les tout débuts du groupe, ça a été des débuts assez catastrophiques parce que les membres étaient tellement à fond là-dedans ils ont fini par mais presque s'auto détruire. Donc, le chanteur a fait une sorte il est presque mort. Le guitariste du groupe, dans un rituel, a lancé une épingle qui lui est rebondie sur l'œil et est devenu, donc, il a perdu la vue. C'est aussi rocambolesque que très étonnant. Donc, Necromancer of Rock. Moi, je l'avais acheté ici au Québec chez la boutique de Temple of Mystery, qui est la boutique de Annick Girou. Hein, Annick, c'est la chanteuse d'un groupe culte de doom metal. Et on est un petit peu effectivement dans cette atmosphère-là, très lourde et apocalyptique. Et le groupe s'est reformé 5 ans après, là, une fois que tout était retombé, avec des membres différents. Et le guitariste, lui, a fait une carrière sous le nom de Paul Chain. Donc, on est vraiment dans une musique très, très culte et dans un ouvrage très pointu, mais assez fascinant à découvrir. Ça se lit vraiment c'est presque invraisemblable comme lecture.
Ben, en effet, tu me racontes ça, puis on dirait quasiment la trame d'un roman. Il y a quelque chose d'assez fascinant, en effet.
Ça aurait pu faire un film, ça c'est sûr. On voit souvent des films biographiques là, qui, pour moins que ça, on fait un film. En fait, tu vois, c'est l'un des fils conducteurs. Hein. J'ai toujours été très intrigué par les gens qui voulaient faire du fantastique un mode de vie. C'est-à-dire que pour eux, c'était pas seulement une création littéraire distanciée comme ça. Ils intégraient le fantastique dans leur vie, jusqu'à y croire, des fois jusqu'à y sombrer. Il y a donc un certain nombre de personnalités un peu énigmatiques comme ça qui peuvent en jouer parfois. Hein. Ça a été le cas, par exemple, de cet ouvrage ici qui s'appelle Le Diable au 19e siècle, qui est paru dans la collection Univers secret chez Marabout. Ça nous parle d'une personne qui a réellement existé. Il s'appelait Gabriel Jogas-Pagès, qui s'est fait connaître sous le nom de Léo Taxil. Lui avait été élevé chez les Jésuites et avait développé très rapidement une détestation absolue du clergé. Et il avait publié plusieurs livres très, très anticléricaux. Je pense qu'il y avait Bouffe Jésus, là, des trucs comme ça, donc des ouvrages au titre invraisemblable, les crimes du clergé. Et à la fin du 19e siècle, dans la France un peu décadente, il y avait un engouement pour le satanisme, dont, entre autres, Huysmans fait le témoin dans un livre qui s'appelle Là-bas. Et il y a eu une mystification que Léo Taxil a lancée, qui était sur la naissance de l'Antéchrist, qui était liée, disait-il, à la franc-maçonnerie. Donc, il voyait comme une sorte de secte luciférienne qui travaillait pour la naissance de l'Antéchrist, qui devait avoir lieu prochainement. Et c'est une mystification qui a duré comme ça pendant plusieurs années. Il faisait paraître des ouvrages qui se lisaient presque comme des romans feuilletons, finalement, qui sont presque des fictions, mais qui sont des fictions, mais qui étaient présentées comme la réalité. Jusqu'à ce qu'il promette parce que tout le monde voulait voir la mère de l'Antéchrist dont il parlait, donc il avait promis qu'elle viendrait à la Société de géographie en France. Et là, il y avait tout un parterre de sceptiques. Et c'est Léo Taxil qui s'est présenté lui-même en disant, ben voici, c'était une mystification pour rire de la crédulité des cléricaux. Donc, et il est redevenu anticlérical après ça. Donc, pour savoir tout sur la saga de Léo Taxil, Le Diable au 19e siècle, dans la collection Univers secret chez Marabout. Tu me le dis si je prends trop de temps, je peux
Non, non,
résumer là,
non,
parce
non,
que
non. Avec ça me rappelle les souvenirs, par exemple, la vieille collection chez Marabout. J'ai dévoré ça à la bibliothèque quand j'étais jeune.
il y avait Roland Villeneuve aussi, Paris, un livre sur Paris, bon, etc. Donc, je trouvais ça chouette aussi d'amener ça aussi, parce qu'après tout, à l'Halloween, on marche dans le fantastique. Hein. Si vous sortez dans votre quartier, vous allez arpenter le fantastique. Cet après-midi, avec Ariane, on est allé se promener, on voyait les décorations partout, les sorcières, les citrouilles, les fantômes. Donc, c'est vraiment, des fois, on se dit que ça serait chouette que ça soit comme ça toute l'année, mais en même temps, on l'apprécie sans doute davantage, quand c'est circonscrit dans une période spécifique. Tu vois, un autre personnage comme ça, assez intriguant, c'est l'autrice Renée Dunan, dont est paru Bâle en réédition hein, chez Rivière Blanche. Renée Dunan, qu'on surnommait la faunesse littéraire, c'est une figure littéraire énigmatique là, de la fin du 19e, début du 20e. Elle a produit dans tous les genres, mais avec toujours un style assez transgressif. C'était une militante féministe, donc il y avait des idées très, très avant-gardistes, et ça se voit dans ce livre Bâle qui annonce, on parlait de Lovecraft tout à l'heure, là, qui préfigure Lovecraft. Donc, qu'est-ce que Bâle? En fait, c'est l'histoire d'une magicienne qui s'appelle Palmyre et la narratrice qui s'appelle Renée, justement comme Renée Vivienne, va devenir secrétaire de cet occultiste-là et ensemble elles vont ouvrir un portail dimensionnel. Donc aujourd'hui en 2022, ça peut avoir l'air peut-être un peu banal, mais il faut savoir que c'est un récit qui date des années 20, si je me rappelle bien, j'ai pas la date là, mais années 20, années 30, donc très très en avance sur son époque et surtout riche en visions très très métaphysiques. Et on trouve dans cet ouvrage publié chez Rivière Blanche un autre roman qui s'appelle Les Amantes du Diable, où là on est plus dans un fantastique un peu médiéval avec sabbat de sorcières et tout. Alors ça se trouve toujours chez Rivière Blanche dans une belle édition présenté par Brian Stavelford, qui s'est intéressé à l'imaginaire en francophonie.
Wow. OK. J'essaie de suivre ce qui se fait du côté de Rivière Blanche parce qu'en effet, non seulement bon, ils publient des nouveautés, mais de fois en temps, ils redéboussièrent comme ça des petits chefs-d'œuvre qui pourraient facilement tomber dans l'oubli sinon.
Ben, oui, c'était le cas d'ailleurs pour cette collection-là, Baskerville. Hein, ils ont aussi, on connaît l'histoire de la patte de singe là, qui nous permet de
Oui.
faire trois vœux, donc de W.W. Jacobs. Alors, ça a été, c'est un des titres là, qui est publié chez Baskerville. L'occultisme comme mode de vie. Alors, Jacques Coutelas, l'a bien connu. Jacques Coutelas, c'était le dirigeant de la Wicca luciférienne française qui est mort dans des circonstances épouvantables. Donc, ça a été un romancier qui a été très prolifique là, sous différents noms de plume, entre autres Marilyn Vallogy. Et il avait effectivement réellement une sorte de secte un peu démoniaque sur laquelle, d'ailleurs, il y a un documentaire qui se trouve sur YouTube. Je ne me rappelle malheureusement pas le nom, mais ça se trouve. Et il y avait une déséquilibrée là, qui faisait partie de cette secte-là. Donc, à un moment donné, ben, elle a tué quelqu'un. Et lui, pour la protéger, il l'a tué, il s'est pendu. Donc, son histoire s'est terminée comme ça. Et il a écrit 5 romans d'horreur sous le pseudonyme de Maïk Végard, publié dans une collection éphémère qui s'appelle Terrifique. Ça, c'était publié chez un éditeur qui s'appelait Monet, qui a duré à peu près, qui a existé à peu près une seule année. Et on retrouve dans cet ouvrage, dans cette série-là, Maïk, 5 tombes. Donc, Maïk est une sorte de savante dont le mari est mort. Elle décide de le ressusciter, mais bon, c'est plus un zombie qu'autre chose en réalité. Je m'excuse pour les petits sons de Facebook là, qui sont en train de se faire aller. Et chacun des tombes se déroule dans un endroit différent. Donc, il y a un épisode en Inde, il y a un épisode à New York. Ici, les maîtres de Shambhala, ça fait référence à la célèbre cité mythique. Très, très, très inventif et surtout complètement déjanté. Ça se trouve encore en usagé. Il faudrait rééditer ça. Moi, ça m'a complètement fasciné. J'en lisais un par année parce que je savais qu'il n'y en aurait plus d'autres, hein, compte tenu du destin de l'auteur. Et c'est à peu près tout ce qu'il a produit dans le genre. Il y a aussi un roman qui s'appelle Marigold, initié à la magie, publié dans une collection qui n'a eu que 2 volumes. Magie et sorcellerie. Et là, on est dans quelque chose d'un petit peu moins accompli. Mais vraiment, son œuvre maîtresse, c'est donc la série des Maïk Végard à lire, si vous voulez, quelque chose de surprenant et d'assez intense pour l'époque. Ça préfigure, en quelque sorte, les romans de la collection Gore. Et évidemment, il fallait que j'en ai un de la collection Gore qui est le classique que tu connais bien, L'écho des suppliciés de Joël Husset.
Oui.
Alors, roman qui se déroule dans une station de ski pendant une tempête de neige et pendant laquelle les portes de l'enfer sont en quelque sorte ouvertes. Et pour une fois, parce que souvent quand on nous promet ce genre de mise en bouche-là, le résultat est pas si intense qu'on pourrait s'y attendre. Joël Housin a vraiment mis les standards très, très élevés en termes d'horreur graphique. On entend parfois parler de romans d'horreur. Bon, j'entends dire des fois que Stephen King écrit des romans d'horreur. Toujours un petit peu perplexe. Il peut y avoir quelques pages d'horreur dans un roman de Stephen King, mais est-ce que c'est vraiment de l'horreur ou c'est plutôt des romans d'épouvante ou des thrillers fantastiques? Bon, dans le cas de Joël Housin, il fait aucun doute que L'écho des suppliciés, c'est un roman d'horreur. Donc, il faut arriver préparé. Il y a à peu près rien qui n'arrive pas dans ce roman-là. Alors, si vous avez le cœur bien accroché, mais je me disais, c'est l'Halloween après tout, ça prend quelque chose de plus graphique pour venir illustrer ce volet. Tu l'avais lu, toi, Pierre-Luc,
Oui,
dans
je
le...
l'ai lu. Je l'ai lu. C'est un de ceux qui m'ont marqué. Ben, souvent dans la collection Gore, les offrandes les plus intéressantes, c'était par les auteurs français. Parce que il y avait des bons romans étrangers qui ont été traduits, mais ils ont été charcutés dans bien des cas, puis on n'avait pas la même efficacité. Mais les auteurs français s'en étaient donnés à cœur joie. Puis un des plus réussis, c'est justement ben, un des auteurs qui a le mieux réussi à atteindre l'objectif, c'est Joël Housin.
Effectivement, mais lui, c'est qu'au départ, il connaissait le nombre de signes. Hein, effectivement, ça n'avait pas besoin d'être coupé. Et l'autre chose un petit peu curieuse, Daniel Rich, le directeur de collection, en parle dans l'ouvrage qui est consacré à Gore, c'est qu'il a publié beaucoup de romans qu'il appelait d'épouvante anglaise tranquille. Alors, en réalité, le pacte de lecture était complètement rompu parce que tu vois Gore, mais tu lis le livre. C'est juste un petit thriller comme ça qu'il a publié parce qu'il avait aimé ça. Donc, les Français, eux, au contraire, comme tu le disais, hein, que ce soit Houssaint ou quelques autres comme Corsélien, là, qui écrivait sous le pseudonyme de K-Pascal Marignac, quand on pense au titre « Bruit crissant du rasoir sur les eaux », juste le titre lui-même est assez significatif des intentions, bien que c'était un agrégé de philosophie, donc c'est toujours fait avec subtilité. Autre roman très étrange, celui de Hubert Burger, Hubert Burger, je ne sais trop, dans une série de 2 volumes qui s'appelle Max, Roi du Monde, page couverture un peu douteuse, là, ça fait pas très 2022, Copula cum Daemone. C'est l'histoire donc d'une sorte d'enfant diable qui a été conçu pendant une nuit de la Chandeleur et qui découvre qu'il est, même s'il est le fils du diable, il n'a pas vraiment le mal, mais Dieu ne veut rien savoir de lui. Il se retrouve dans une succession d'épisodes très étonnants. Il va visiter entre autres un camp de concentration nazi. Quand il est tout petit, il pense que c'est une sorte de jardin des délices parce que c'est un fou qui le lui fait visiter. C'est presque l'inverse de La vie est belle, le film de Roberto Benigni. Et il va se retrouver lui aussi dans Shambhala, envoyé là par des moines bouddhistes dans le deuxième tome où il trouve une société souterraine. Donc c'est complètement éclaté. Deux volumes, donc celui-là est Max, roi du monde. Malheureusement, pas évident à trouver. Le deuxième, c'est un ami qui me l'a prêté d'ailleurs. Donc je suis toujours à l'affût pour essayer de le trouver. Mais si vous voyez ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait voir dans un marché aux puces à 1$. Là, ça vaut la peine d'être acheté. Des petites curiosités comme ça qu'on voit passer. Généralement, je vais toujours mettre la main dessus. On ne sait pas ce que c'est, mais il peut y avoir de belles surprises à faire dans ces éphémères collections ou ces titres dont on n'entendra jamais parler.
En effet, j'en avais jamais entendu parler. C'est la première fois que... Non seulement j'en ai parlé, mais que je le vois, donc, une découverte.
Une mention pour un livre que j'ai pas lu, parce que c'est toujours bien de parler d'un livre dont on n'a pas lu. On parle de découverte étrange. Gérard de Villiers, hein, le baroudeur de l'édition française, là, qui avait publié les SAS et autres brigades des mœurs, avait une collection érotique et il a publié Holocaust pour une momie dans sa collection érotique. Ça, très, très drôle de se dire qu'on achète un roman érotique qui s'appelle Holocaust pour une momie. Malheureusement, je ne l'ai pas lu, mais juste pour quand j'ai vu ce titre-là, je me disais, bon, ça me prend ça, c'est trop étrange. Mais bon, j'ose pas le lire parce que c'est sûrement pas, c'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut imaginer. Il y a certains films ou certains livres sur lesquels on peut s'imaginer plein de choses quand on est petit. On en entend parler. Finalement, quand on les voit, c'est pas à la hauteur de ce qu'on s'était imaginé. Donc, en tout cas.
Ouais, c'est sûr que le titre annonce tout un programme. En effet, on peut douter de l'atteinte. La barre est placée haute.
Et je m'en voudrais de... Écoute, je veux pas prendre trop de temps non plus, donc je m'en voudrais quand même de ne pas terminer là, avec mon... un des maîtres littéraires, qui est Marc Agapi, de son vrai nom Adrien Sobra. Donc, il a beaucoup publié chez Angoisse. Il existe une autre édition plus récente. Là. Donc, c'est pas forcément mon préféré, celui-là, École des monstres, mais je le mentionne parce que c'en est un qu'on peut se procurer. J'ai vu cependant sur le site des libraires que plusieurs de ses livres étaient disponibles en PDF. Là. Ce sont carrément donc les éditions d'origine qui sont scannées en PDF. Pour te situer un petit peu sur l'ambiance de ce roman-là, donc on parle d'une vieille fille qui s'appelle Marthe. Et Marthe a hérité de la maison de son oncle. Dans le sous-sol, ça ressemble un peu à mon roman comme ça, mais tu vas voir que c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, dans le sous-sol où son oncle habitait, c'était des serres, là. Il cultivait des plantes à la fin de sa vie. Et donc, elle a tout fermé ça. C'est une femme qui est très avare et qui vit dans deux pièces là, en coupant tout. Et un jour, ses deux sœurs, qu'elle n'a pas vues depuis très très longtemps, arrivent chez elle et lui disent on savait que tu habitais là, donc nous on voudrait habiter dans les sous-sols. On va te payer une rente très élevée à chaque mois, mais tu ne devras jamais y descendre et ne plus jamais y aller. Ça se peut que tu ne vois pas sortir non plus. Donc, prise par la pas du gain, elle va bien sûr accepter cette proposition de ses deux sœurs. Mais bon, il y a des enfants qui commencent à disparaître dans les environs et c'est un peu l'histoire de Barbe Bleue. Donc, elle entend d'étranges bruits aussi en provenance du sous-sol. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette école des monstres? Il faut lire le livre pour le savoir. Et l'une des forces de Agapi, c'était toujours qu'il va retarder énormément le moment où l'on sait. Donc, si tu as un roman de 220 pages, quand tu vas enfin comprendre ce que c'est, ça va souvent être vers la page 200. Donc, cette espèce de talent à repousser cette révélation finale-là fait en sorte qu'à un moment donné, là, ça devient presque insoutenable à lire. Là. Et c'est très assez finement fait. Et il est unique, cet écrivain-là. Il a un style grinçant. Quand on voit la photo, j'aime bien montrer sa photo. Je sais pas si j'ai cette photo-là de lui. Donc, je trouve que il y a le style qui allait avec son visage. C'était un prof d'anglais qui a attendu d'être à la retraite avant de commencer à écrire ses romans d'horreur. Donc, il a commencé à écrire ses romans d'épouvante et d'horreur dans la soixantaine. Il en a écrit 43 entre 1957 et 1974. Ça, c'est à peu près la période d'existence de la collection Angoisse. Et quand ça a été fini, tac, ça a été terminé. Et mon livre, Dans les pas d'une poupée suspendue, s'inspire partiellement d'une entrevue qui avait été faite par un jeune fan qui était allé le voir chez lui. Et moi, je n'avais jamais relu cette entrevue-là. Et dans ma mémoire, quand on entrait chez Marc Agapi, il y avait une immense statue du diable rouge. Alors, mon livre parle entre autres d'un lieu où on trouve une immense statue du diable rouge. Et en fait, j'ai relu l'entrevue après, mais c'était juste un petit buste de rien. Donc, c'est comme quoi souvent notre imaginaire va travailler et va bonifier les choses, comme quand on se rappelle de choses qui se sont passées. Mais là, tu vois, ça fait déjà 30 minutes que je te parle. On l'avait dit 5 minutes. Je ne veux pas abuser non plus de ta générosité, de celle des gens qui nous écoutent.
Hey, merci beaucoup. Moi, j'avais lu une réédition justement de Marc Agapi qui avait trois romans qu'il avait publiés là, qui étaient mis ensemble. Je pense que c'est justement celui La Bête immonde. Non, L'École des monstres ne fait pas partie là, de ce que j'ai découvert de l'auteur, mais c'est je me souviens que c'est un auteur qui m'avait marqué beaucoup à une époque où j'avais lu énormément de romans horreur épouvante et tout ça, puis je fait que oui, c'est une voix très très forte du fantastique et de l'horreur.
Et il arrive pour moi, en fait, à être passionnant. Là. Donc, j'en lis un par année parce que, encore une fois, je sais qu'il n'est plus avec nous, donc je veux les garder pour les apprécier. Mais tu prends un de ses livres et tu peux pas arrêter de le lire. Mm-hmm. Quelque chose, un mouvement, c'était très, très moderne aussi comme écriture. Oui. Souvent écrit au présent, au jeu, avec une écriture assez dépouillée qui va droit au but, mais qui est une écriture qui a quand même une vision et un style derrière tout ça. On le voit en lisant, là. C'est quand même un lettré, c'est un prof d'anglais de toute façon. Et il avait déjà une approche un peu méthode qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, ça arrivait, par exemple, qu'il intégrait une histoire de Shakespeare à l'intérieur de ce qu'il faisait. Il y avait souvent ce côté-là, deuxième degré, mais qui n'est pas au-dessus de son sujet, qui n'est pas moqueur non plus, même si on entend toujours une sorte de grand rire grinçant qui est peut-être celui du diable, finalement, qui habite toute son œuvre.
Hey, merci beaucoup, Frédéric. C'est toujours un plaisir de parler de fantastique et d'horreur avec toi. Je te souhaite un joyeux Halloween.
Et oui.
Et on va continuer à suivre ce que tu publies.
Donc, joyeux Halloween à tout le monde aussi. Et merci, Pierre-Luc. Plaisir partagé.
On a avec nous un autre auteur qui a touché à différents genres, Éric Gauthier, qui est conteur, qui a écrit quelques nouvelles aussi, qui a écrit surtout plusieurs romans qui ont été marquants aux éditions à lire. Le plus récent s'appelle Les étages ultérieurs. Bonjour Éric. Yes.
Bonjour, bonjour.
J'ai une question pour toi, la même que j'ai posée aux autres invités. Quelles seraient tes recommandations? Ça peut être des films, des livres, des bandes dessinées, des séries télé. Bref, quelles seraient tes recommandations pour l'Halloween ou du moins pour les amateurs d'horreur?
Oui, alors j'ai quelques trucs. J'ai une sélection un petit peu hétéroclite. Je suis allé avec ce qui me venait, ce qui me parlait ces temps-ci, je sais pas. J'avais envie de commencer avec une de mes belles découvertes récentes. C'est une série de romans par Elizabeth Hand. Et puis ça tourne autour d'un personnage, sa protagoniste qui s'appelle Cassandra Neary. Le premier tome, c'est Generation Loss. C'est paru en français sous le titre Images fantômes. Ça peut être un peu dur à trouver, un peu ou un peu coûteux à se procurer, mais ça a été traduit en français. Et puis cette série-là, c'est pas de l'horreur directement. Je me rendais compte, je deviens dans ma recherche d'horreur, pas difficile exactement, mais je vais chercher des ambiances bien précises ou des choses que j'ai pas vues encore. Puis ça m'amène souvent dans des fictions qui sont hybrides, qui sont de l'horreur puis d'autres choses en même temps. Cette série-là, c'est ça tourne autour de bon Cassandra Neary, comme je disais, qui est une photographe qui a eu son qui a connu son 15 minutes de gloire en photographiant la scène underground de New York, voilà des années de ça, quand le punk était à son apogée. Et puis depuis ce temps-là, sa vie a pas mal dégringolé, donc on fait sa connaissance, elle est rendue dans la quarantaine. Elle a tendance à régler ses problèmes à coup de drogue et puis d'alcool, ce qui l'amène à prendre un certain nombre de décisions plutôt douteuses dans le courant de la série. Et puis ce qui la démarque surtout, c'est sa vision. Elle a une fascination pour ce qu'elle appelle le dommage. Elle trouve une beauté dans les ruines, dans les gens qui sont endommagés, qui sont désespérés, qui sont défectueux d'une manière ou d'une autre. Et puis, elle se trouve dans des situations périlleuses, des situations un peu troubles. Dans le premier tome, par exemple, elle va interviewer une autre photographe, légendaire, sur une île au large du Maine. Et puis, quand elle arrive là-bas, découvre qu'il y a eu des disparitions dans les dernières années. C'est à se demander s'il n'y a pas un meurtrier. Elle commence à creuser là-dedans. C'est pas sa job, c'est pas de ses affaires, mais elle vient qu'à se trouver mêlée à ça par la force des choses. Et puis, il y a déjà une fascination dans cette série-là pour le macabre, si on va pour ce qui peut plaire aux amateurs d'horreur, une fascination pour le macabre et puis un fantastique qui est géré d'une manière bien, bien particulière. C'est un fantastique excessivement discret par moment, assez que justement dans le premier tome, on peut se demander ce qui se passe là, est-ce que c'est purement l'œuvre d'un tueur un peu... avec des délusions occultes, parce qu'il y a toute une histoire autour d'une commune, une espèce de commune hippie qu'il y avait eu là dans le temps, où est-ce qu'il y avait justement des rites occultes qui se faisaient. Mais est-ce que c'est justement purement de la superstition de la part de ces gens-là, ou bien est-ce qu'il y a réellement quelque chose de surnaturel qui se passe, qui peut-être serait lié à quelque chose que la protagoniste a vécu dans son enfance? On le sait pas. Il y a beaucoup de flottement, mais c'est l'atmosphère qui est le fun. C'est le personnage, surtout le personnage principal. Et puis, c'est les gens qu'elle rencontre en chemin, les situations dans lesquelles elle se retrouve. Dans le deuxième tome, je ne vois pas toute la série, mais dans le deuxième tome, ça tourne entre autres autour du black metal scandinave. Je trouvais ça intéressant à mentionner ici parce que dans le premier épisode, vous aviez discuté, toi et Jonathan Reynolds, de son roman Abîme, si je me souviens bien. D'un roman dans lequel justement il est question du métal, mais Reynolds traite de la scène québécoise du métal. Ça donne un roman que je recommande. C'est un roman d'horreur dans la scène du métal, écrit par un passionné absolu d'horreur et de métal, donc ça marche. Et puis, je trouvais intéressant par la suite de lire le deuxième roman de cette série-là de Elizabeth Hand, qui s'appelle Available Dark, où est-ce que notre anti-héroïne photographe se retrouve cette fois-là en Finlande et puis en Islande après ça. Et puis, elle se trouve à côtoyer des gens qui étaient dans le métal extrême, et puis côtoyer presque les dieux nordiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où Jonathan Reynolds a créé sa propre mythologie autour du métal, autour des thèmes de son roman, Elizabeth Hand, elle, a vraiment puisé dans la mythologie nordique, autrement dit, aux mêmes sources qui ont inspiré beaucoup de bandes de black metal. Donc, c'est vraiment des approches différentes, mais les deux romans, celui de Reynolds et puis celui de Hand, sont intéressants chacun à sa manière. Donc, je les recommande, et puis c'est ça, je recommande cette série-là autour du personnage de Cassandra Neary, qui ça vaut la peine d'être découvert.
OK. Ben, je prends ça en note. C'est vraiment un auteur que Je pensais que je ne connaissais pas, mais finalement, j'ai regardé vite, vite sa bibliographie. Il y a certaines de ses nouvelles que j'avais vues. Elle a gagné les prix Nebula, gagné les prix War Fantasy aussi. Souvent, j'essaie de voir, toujours curieux de voir ce qui se fait de mieux dans les genres. Je me souviens d'avoir lu au moins une de ses nouvelles là, dans une anthologie où il y avait les meilleures nouvelles de fantasy et d'horreur de l'année.
Ouais. Elle a une bonne plume, une belle finesse d'observation aussi.
Donc, je mets ça sur ma liste de choses à découvrir, particulièrement là, le deuxième tome qui pique ma curiosité avec son approche du métal.
Très bien, très bien. Sinon, après ça, j'avais envie de passer à Dave Côté. Dave qui est un auteur qui a une belle variété, ben une belle imprévisibilité surtout, je dirais, dans ce qu'il produit, dans ce qu'il écrit. Je le conçois pas comme étant principalement un auteur d'horreur, mais il a donné dans l'horreur de différentes manières. Lui et moi, on a partagé le sommaire du recueil Bizarro à la Maison des Viscères. Dave avait une histoire autour d'un démon jardinier. C'est justement ça le fun, c'est qu'il peut écrire une histoire de démon, mais il va pas en faire une bête histoire de possession standard ou plonger dans la mythologie catholique ou quoi. Non, c'est son démon va jardiner à la place. Puis en réfléchissant à mes recommandations en général et puis à Dave Côté en particulier, une chose qui me venait, c'est que c'est vraiment un des plaisirs de l'horreur pour moi, puis pour ben des gens aussi, j'ai l'impression, c'est l'imprévisibilité. C'est quand on tombe dans certains types de films d'horreur, surtout, il y a des images délirantes qui vont sortir de là, on sait pas toujours ce qui nous attend. Et puis, avec Dave, on a souvent le plaisir de la surprise. Donc, il y a son recueil Né comme ça qui vaut la peine d'être lu. Une couple de nouvelles là-dedans vont pencher un peu plus vers l'horreur. Il y a Tout à la fois qui est... C'est une histoire autour d'un genre de... Disons, un genre de blob qui atterrit sur Terre puis qui commence à assimiler les êtres vivants sur son passage, mais c'est raconté d'un angle que j'ai jamais vu utiliser pour ce type d'histoire-là. Et puis, la situation est quelque chose d'horrible, mais l'effet d'ensemble est plutôt comique à la lecture. Il y a une autre histoire dans le même recueil autour d'un gars qui a un problème avec son dos, disons, qui, elle, est nettement plus sombre, nettement plus poignante. Je me rends compte aussi que j'évite de trop parler des détails de ces histoires parce qu'une bonne partie du plaisir de la chose, c'est la découverte à mesure, découvrir où est-ce que ça s'en va. Là où il a donné le plus en l'horreur pour moi, dans ce que j'ai lu de lui, c'est sa nouvelle « Ceux qui sont partis », qui est sortie dans « Brin d'éternité », le numéro 56, dans laquelle on découvre un personnage, un homme au début qui a eu un accident et puis qui s'est arrangé pour conserver son pied qu'on a dû lui amputer. Et puis il développe pour son pied une drôle de fascination. Je ne veux pas trop dire où est-ce que ça en va, mais c'est ça, on part de ça, sa fascination sur son pied, puis son idée aussi qu'il se porte peut-être mieux sans son pied, en fin de compte. Puis on creuse ça un peu, pourquoi c'est comme ça, il y a une espèce de compulsion qui s'empare de lui autour de ça, et puis là où ça commence dans le trait personnel, et puis bien ancré dans le détail, aussi du détail troublant par moment, Ça vient qu'à s'étendre en cours de nouvelles, et puis il y a de la mythologie qui s'invite là-dedans. Dave exploite aussi un fait divers que j'avais remarqué déjà, qui m'a bien fasciné, mais lui a trouvé le tour de bâtir une histoire autour de ça. C'est particulièrement redoutable comme texte. J'ai vu passer deux nouvelles, là, au moins deux nouvelles de SF de lui, où est-ce que il utilise la technologie SF utilise la technologie, mais pour créer un genre d'effet angoissant qu'on va créer par le fantastique d'habitude. Donc c'est ça, pour moi qui recherche L'horreur, oui, mais qui recherche des angles inhabituels, ben, ouais, j'ai trouvé du bon matériel à lire du côté de Dave Côté.
Ouais, ben c'est sûr que Dave, c'est une des choses qui fait sa... Il y a plusieurs qualités comme écrivain, mais une des choses qui fait sa plus grande force, c'est qu'il est capable d'aller jusqu'au bout de la logique interne de ses textes. Fait qu'il est capable de prendre une situation absurde, mais de la traiter avec sérieux, ce qui vient rajouter au côté absurde de la chose ou au côté grotesque et en même temps qui permet de créer des effets de tout genre. Il y en a que ça va aller du côté de l'horreur, il y en a que ça va aller dans d'autres directions. Mais c'est cette espèce de mélange-là, parfois, entre une situation qui pourrait facilement devenir du n'importe quoi, mais avec lui, ça ne le devient jamais. T'sais, parce que c'est traité avec, je vois pas d'autres termes, là, mais avec respect. Le respect du lecteur, mais le respect aussi de ce qu'il propose. Parce que ce serait facile, surtout quand on parle d'absurde, parce qu'il y a un côté absurde dans ce qu'il fait, mais c'est facile que ça devienne du n'importe quoi. Puis moi, personnellement, comme lecteur, c'est là que je décroche. Puis Dave va pas dans le n'importe quoi. C'est une de ses grandes forces, je trouve.
Ouais, je cherche le terme. C'est-tu, tu parles de respect, puis ça se tient, mais il y a un autre terme encore, je pense. Il y a un sérieux là-dedans, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Mais c'est le fait que, ouais, quand tu nous arrives avec une proposition bizarre, ben, il va pas, c'est comme s'il va pas pour un instant s'attarder au fait que c'est bizarre, puis il va juste plonger à fond dans ce que c'est, puis voir où ça mène.
OK. Ta troisième suggestion?
Oui, côté cinéma, ça me tentait de ressortir un film qui s'appelle Frailty. Ils ont appelé ça Frêle, je pense, en français.
Oui.
C'est assez mainstream comme film, mais ça a pas fait un splash énorme à sa sortie. C'est un autre qui m'a agréablement surpris quand je l'ai vu. Sa sortie, je pense, en 2001. C'est réalisé par Bill Paxton, qui joue aussi un des rôles principaux, là, le rôle du père dans ce film-là. C'est écrit par Brent Hanley. Dans ce film-là, on a deux jeunes garçons qui habitent avec leur père. Je pense que leur mère est morte de mémoire. Ils habitent avec leur père, et puis un matin, leur père là, arrive et puis leur dit essentiellement, j'ai eu une vision, Dieu m'a envoyé un ange pour me dire que il y a des démons sur la terre. Il y a des démons sur la terre, ces démons-là prennent forme humaine, ils vivent parmi nous, ils pourraient être nos voisins. Dieu m'a dit que c'est la tâche de notre famille de trouver ces démons-là et de les éliminer. Et puis on parle de deux jeunes garçons qui ont 7 ans et 10 ans ou quelque chose comme ça. Imagine tu as cet âge-là puis ton père t'arrive avec ça. Le père est tout à fait sérieux, les garçons vénèrent leur père, ou en tout cas sont très... ils croient leur père énormément, comme ben des jeunes à cet âge-là. Donc, petit à petit, ils embarquent dans cette aventure-là, disons, de débusquer les démons qui sont parmi nous, et puis essayer de les éliminer. C'est absolument, évidemment, c'est absolument horrible comme film, dans le sens où on sent le poids de ce que le père amène à ses enfants. Un enfant ne devrait jamais avoir à faire face, ne devrait jamais avoir à vivre avec ce genre de situation-là. Un des deux fils trouve un enthousiasme pour la tâche civile de la famille. L'autre fils, lui, se permet de douter, puis nous aussi on se permet de douter parce qu'il y a réellement il y a réellement beaucoup de place pour l'interprétation là-dedans. Ça se pourrait-tu qu'il y ait eu vraiment quelque chose de cette histoire de démon? Est-ce que le père est schizophrène simplement, ou est-ce qu'il y a un autre est-ce que c'est toute son imagination, c'est la folie qui l'a frappé, on ne sait pas. Mais on suit ça où ça mène. Il y a deux trames qui alternent aussi. On a une trame dans le présent avec un des fils adultes qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé quand ils étaient enfants. Et puis, c'est pas particulièrement sanglant. C'est pas très sanglant, mais ils nous font... C'est ça, on... on nous fait sentir le poids des situations. Et puis, ça mène à une fin qui n'a pas marché pour tout le monde, j'ai l'impression, mais pour moi, ça a marché pour les implications. Parce que quand on prend le temps de se penser le moindrement, la fin est tranche à savoir qu'est-ce qui est... La fin a l'air de trancher à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis quand on pense aux implications de cette fin-là, moi, ça me donnait froid dans le dos. Donc, ouais, ça, c'est un temps que j'ai bien aimé.
Oui, je me souviens que je garde d'excellents souvenirs de ce film-là. Je l'ai encore dans ma collection. Puis je me souviens qu'il avait changé ma perception de Matthew McConaughey, qui est un des acteurs principaux dans le film. Que moi, j'ai identifié un peu, je pense qu'il venait de jouer dans une comédie romantique, genre avec Jennifer Lopez ou quelque chose comme ça. Fait que moi, je l'identifiais plus à ce genre de film-là. Puis il avait joué dans le EdTV, la version américaine de Louis XIX.
Oui, Louis XIX,
Fait que je l'attendais pas dans ce genre de film-là. Et je me souviens que ça m'a... Je l'ai regardé avec un œil autrement après, puis bon, il a pris des risques comme acteur dans d'autres films par la suite, puis on a vu qu'il était capable de faire des choses solides. Mais ouais, c'est vraiment là-dedans que je l'avais découvert, ou du moins qu'il était tombé dans mon œil de cinéphile.
Ouais, puis il y a Bill Paxton que j'avais bien apprécié là-dedans, oui. qui fait un bon travail à la fois comme réalisateur et comme acteur.
Tout à fait.
Sinon, j'en avais un petit dernier.
OK.
Au cinéma encore, un film plus récent, 2016, je pense, un film qui s'appelle A Dark Song. C'est écrit et réalisé par Liam Gavin. C'est une production, une coproduction irlandaise et britannique, je crois bien. Quand je disais que je cherche des atmosphères particulières ou tout ça, ce film-là, c'est un film lent, c'est un film à une échelle très restreinte, c'est un huis clos. Ce que c'est comme histoire, en gros, c'est qu'on a une femme, Sophia, qui a subi un drame et puis qui se tourne vers l'occulte pour obtenir ce qu'elle veut, parce qu'il y a un flottement au début par rapport à qu'est-ce qu'elle veut obtenir de l'occulte exactement. Est-ce qu'elle veut du pouvoir? Est-ce qu'elle veut se venger? On le découvre en cours de route. Mais on sent qu'elle a été absolument dévastée, puis maintenant qu'elle est absolument déterminée à obtenir ce qu'elle veut. Et puis pour ce faire, elle a trouvé un expert en occulte qui va l'aider à accomplir un rite qui permet supposément de faire descendre sur Terre un ange, une sorte d'ange gardien ou quelque chose comme ça, auquel on va pouvoir demander ce qu'on veut, un peu faire un vœu, pratiquement on va pouvoir obtenir pratiquement n'importe quoi si on arrive à compléter le rite et puis à entrer en contact avec l'ange. Donc, elle et lui s'enferment dans une vieille maison isolée, une vieille grande maison, et puis ils s'occupent de se purifier, de faire attention à ce qu'ils mangent, jeûner, tout ça, et puis préparer la maison, tracer des symboles, etc., etc. C'est ça la chose, c'est quand il est question de culte au cinéma, souvent c'est des trucs qui sont expédiés assez vite, mais là, ce qu'on voit là, ça se rapproche vraiment de... c'est toujours drôle de parler du vrai occulte ou de la vraie magie, mais en tout cas, ça se rapproche vraiment de ce que des gens ont essayé de faire dans la vraie vie en matière d'occulte. Quand on parle de tradition occulte, c'est ça. Le rite qu'ils font, c'est quelque chose qui doit s'accomplir sur une période de plusieurs jours, des jours pendant lesquels ils vont plonger eux dans leur isolation, leur obsession, leur dépendance un envers l'autre. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose par moment, mais c'est un slow burn, c'est très graduel. On voit toute la dynamique malsaine de leur relation. Puis en même temps, les moments d'humanité qu'il y a au travers de ça. L'expert en occulte, il n'y a vraiment rien d'un Aleister Crowley ou d'un Doctor Strange ou de... il n'y a rien d'un grand individu sinistre et élégant ou quoi que ce soit. C'est juste un... c'est juste un gars. C'est vraiment juste un gars qui s'adonne à s'être beaucoup penché sur ce genre de questions-là, puis qui n'a pas grand-chose dans sa vie à part ça. Et puis, il flotte vraiment un doute à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans, est-ce qu'on peut lui faire confiance à ce gars-là. Mais c'est ça, il y a un réel plaisir à accompagner ces deux-là avec l'ambiance lourde qui s'installe et puis voir finalement qu'est-ce qu'ils arrivent à atteindre ou non. Donc, c'est vraiment un film pour gens, pour spectateurs patients. C'est pas un film pour faire le saut, mais ça vaut la peine d'être vu.
OK. Ça, t'arrives dans un film dont je n'avais jamais entendu parler. Par contre, je suis capable d'être patient, puis je ne suis pas un gros maniaque des sauts de toute façon. Je suis curieux de voir une approche, pas documentaire, mais une approche documentée de l'occulte.
Je sais pas à quel point c'est proche ou non de justement de véritables rites qui ont été proposés par Crowley ou qui que ce soit d'autre, mais c'est la saveur de la chose et puis le sérieux de la chose qui donne du poids à tout ce processus là.
Ah ben ça va être à noter. Hey, merci beaucoup de t'être prêté au jeu.
Merci pour l'invitation.
Donc, on va rajouter ça dans nos listes de choses à voir.
Et c'est ce qui met fin à notre 8e épisode du balado Les visages de la peur. Enfin, pas tout à fait. Vous vous souvenez, peut-être, ou pas, dans le dernier épisode, j'avais commencé à répondre moi-même à ma propre question. J'avais fait des suggestions de bande dessinée. Puis je vous disais qu'il y avait une deuxième partie qui viendrait cette semaine. J'ai deux films et deux livres pour vous. Le premier, c'est un premier film. C'est un documentaire, L'inquiétante absence, qui est un film sur l'état du cinéma de genre, particulièrement de tout ce qui touche l'horreur, le fantastique au Québec. Plusieurs réalisateurs, plusieurs gens importants du milieu qui participent à ça, qui sont interviewés. Des gens comme Isabelle Grondin, Patrick Sénécal, Patrick Huard, Éric Canuel, Carniard, Robin Aubert. Vraiment très, très intéressant. Puis ça risque de vous donner envie de découvrir d'autres œuvres et d'autres artistes. Il y a aussi le film, quand on me demande mon film d'horreur marquant, je réponds toujours Suspiria. Pas le remake américain là, d'il y a 4-5 ans, mais vraiment le film original de Dario Argento dans les années 70. C'est le genre de film que c'est difficile de résumer de quoi ça parle, parce que c'est surtout un film d'ambiance. Il y a quelque chose de très onirique, très malsain là-dedans. La musique de Goblins est obsédante, elle va vous suivre longtemps après. C'est vraiment un film qui m'a créé un beau malaise, qui m'a suivi longtemps. En gros, ça parle d'une étudiante américaine qui se retrouve dans une école de danse, qui en fait est un couvent de sorcières. Mais tout ça n'est jusqu'à un certain point qu'un prétexte, puisque c'est pas tant la trame narrative qu'on suit que de se laisser porter par l'ambiance, les émotions. En film, un des titres qui me passe par la tête en ce moment, c'est Outsiders. Un des récents, je ne vais pas dire des derniers, mais disons des récents livres de Stephen King. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de recommencer à lire. J'avais arrêté de le lire pendant longtemps. Pour moi, le premier 150 pages est, dans ce que j'ai lu, de plus efficace, de plus mystérieux. On a l'Américain typique, coach de baseball, apprécié dans son milieu, qui est accusé de meurtre et de viol sur des mineurs. Et tout pointe vers lui, toutes les preuves sont là, c'est béton. À part une chose, il y a des preuves tout aussi béton, tout aussi solides, qui prouvent qu'il était dans une autre ville exactement au même moment. Il y a quelque chose de l'ambiance là-dedans est vraiment fascinante. Et comme je disais, surtout là, le début, j'ai adoré. Un classique pour moi, c'est Sur le seuil de Patrick Sénécal, qui je dis souvent, c'est le roman d'horreur que j'ai le goût de lire chaque fois que je lis un roman d'horreur. C'est classique, mais c'est bien fait, c'est efficace, c'est prenant. Donc, une descente aux enfers carrément. Très, très conseillé. Sinon, un autre conseil, Nuit d'été de Dan Simmons. Pour moi, c'est comme ça de Stephen King en plus efficace. On a encore une gang de jeunes qui sont confrontés à l'indicible, à l'horrible. C'est traité avec beaucoup de finesse. C'est plus court que le roman Stephen King. Il y a moins de longueur. La fin aussi est moins... plus abouti à mon sens. Une très forte recommandation, même si Dan Simmons est un drôle d'auteur. Il a écrit plusieurs de mes romans préférés. Pour moi, c'est un auteur majeur. Mais il y a certains de ses livres qui me sont tombés des mains et que j'ai détestés. C'est pas une valeur sûre. Il y a certains auteurs, David Mitchell, par exemple, que tout ce qu'il fait, j'aime ça. Dans le cas de Dan Simmons, chaque fois, c'est comme un peu une boîte à surprise. Est-ce que je vais adorer? Est-ce que je vais détester? Je dois le découvrir là, en lisant le livre. Donc voilà, c'est ce qui met fin pour vrai à notre épisode. Et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode des Visages de la peur.